Vous êtes sur RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Je veux dire, franchement, je serais tenté de mettre une petite pièce sur Vivi Bonneboye.
Moi aussi.
Hein, tout dans la troisième.
Peut-être s'y mettre à trois.
Bonjour à tous, bienvenue RTL vous régale. En direct jusqu'à midi et demi, c'est parti avec mes complices. RTL vous régale, l'émission culinaire de votre été qui vous emmène pour faire le tour de la France, le tour de France, des régions, direction l'Ardèche aujourd'hui. L'Ardèche, ses pommes de terre, sa bombine, ses eaux minérales gazeuses, ses marrons glacés. On va vous en parler en long et en large dans cette émission. Quant à elle, niveau défi frigo, elle est plutôt, faut le dire, elle est plutôt dans la dèche que dans l'Ardèche. Battue hier par une salade de champignons et de fraises complètement improbable. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Louana Belmondo.
Bonjour, bonjour à tous, comment ça va?
Ça va plutôt pas mal.
Oui, il fait chaud. Hein.
Jusque-là, ça va, c'est-à-dire jusqu'à la battle de pâtes qui nous opposera ce soir.
Ouais.
On s'entendait bien?
Ouais. Je vais peut-être changer des recettes. Hein.
C'est-à-dire
Je vais faire un pesto d'arumes.
Vous nous en parlerez dans cette émission. Une petite parenthèse.
Non, parce que de l'espionnage
industriel.
Que vous pouvez pas.
Face à elle, en tenue de plagiste aujourd'hui, d'une élégance rare, le mollet parfaitement épilé. Voici Jean-Sébastien Petit de Manche. Comment allez-vous?
Bonjour. Ça va très très bien.
Vous serez de nouveau posé dans le jeu du défi frigo, évidemment, tout à l'heure. Ferez-vous plus fort, plus improbable que champignon fraise? La réponse tout à l'heure. Je vous rappelle le principe du défi frigo. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et mes deux amis ont 3 minutes, le temps des infos de midi, pour vous proposer une recette. Vous gagnerez une montre RTL et un guide du routard offert par les éditions Hachette. Vous jouez avec nous pour le défi, c'est très simple. Par téléphone 3210, par SMS le mot régal, suivi de votre ingrédient 64 900.
Juste, quand vous avez fait une battle de pâtes ce soir,
ouais.
Pour bien finir, léger et sympa, je vous ai fait 2 kilos de riz au lait en dessert.
Non, mais alors ça. S'il y a un plat que je rêve de goûter dans la galerie des plats mythiques de Jean-Sébastien, c'est le riz au lait.
Oh non.
Et je trouve en plus que la météo s'y prête particulièrement.
Ah bah c'est entrée pâte, plat pâte et riz au lait.
Dessert riz.
Enfin, un dessert.
Et demain,
climatisé.
5 kilos de plus.
Bienvenue RTL vous régale, on est là jusqu'à midi et demi, merci d'être avec nous.
Restez bien avec nous, RTL vous régale, revient tout de suite.
11h-12h30,
RTL vous régale.
Ça vous plaît?
Oh.
C'est moi qui l'ai fait.
RTL vous régale, nous sommes en Ardèche aujourd'hui et Jean-Sébastien, en préparant cette émission, vous m'avez fait une confidence.
Oui.
Vous m'avez dit, l'Ardèche, mon ami, se situe là où se trouve la ligne de partage des eaux.
Et ça vous a surpris?
Ça m'a fait une belle jambe.
Oui, mais c'est important, la ligne de partage des eaux. C'est ce que c'est.
Bien sûr.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne connais que ça. C'est la limite géographique entre les bassins versants.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et donc?
Bah donc de chaque côté de cette ligne, les eaux s'écoulent dans des directions différentes.
Vous êtes en train de lire, Jean-Michel?
Et en France, cette ligne invisible est à la limite occidentale du parc naturel des Monts d'Ardèche.
Voilà.
Et c'est loin
d'être. J'ai tout compris alors.
C'est loin d'être anodin. Cette affaire-là, c'est loin d'être anodin parce que lorsqu'on est installé sur un point haut, par exemple au sommet du Mézin, la différence est très nette. Vous avez les plateaux du Velay qui sont doucement vallonnés, empruntés par les eaux de la Loire et de ses affluents, qui s'opposent vers le sud, plus vers le sud-est, avec les reliefs déchiquetés de la Cévenne ardéchoise. Parce que les cours d'eau partant vers le Rhône, eux, prennent de la puissance. L'érosion est plus forte, elle a créé des dénivellations très marquées. Et l'eau, elle a créé les gorges de l'Ardèche, par exemple, de ce côté-là. Route liquide absolument sublime, avec quelques villages incroyables sur son parcours, dont Vallon-Pont d'Arc. C'est encore l'eau qui est à l'origine des nombreuses grottes qui furent autant de refuges pour nos lointains ancêtres, à l'image de cette extraordinaire grotte Chauvet qui vous propulse 350 siècles en arrière. Vous imaginez, on était il y a quelques jours dans le Périgord, à Lascaux. Lascaux, c'est moins 15 000. Chauvet, c'est moins 35 000 ans.
Ah, mais tout le monde d'accord. Hein.
ça calme. L'eau toujours en Ardèche, à Privas, la préfecture entourée de trois rivières. Et si cette terre est marquée par l'eau, eh bien, elle transpire aussi l'histoire des paysans qui ont su tirer le meilleur d'un terroir compliqué à travailler pour mille raisons, parce que le relief, parce que le climat, j'en passe des meilleurs. Enfin, l'Ardèche offre à celui qui la découvre des villages qui sont bourrés de charme, qui sont emplis de caractère. Je vous prends un exemple, le village de Voguey, qui fait partie de ces lieux séculaires, tout droit sortis d'une gravure, d'un tableau ou d'un rêve. Il est entièrement classé, ce village, avec son château, avec ses maisons médiévales. Le château fort original, il date du XIIe siècle. Au XVIIe, la famille de Voguey en fit un château d'agrément. Et puis, Aubenas, 12 200 habitants. Grosse ville, mais ça reste humain, hein, quand même, c'est raisonnable. Eh bien, cette ville est posée au-dessus de la verte vallée de l'Ardèche. Aubenas, c'est un marché réputé dans toute la région. C'est incroyablement riche de produits du terroir. C'est également un château à l'histoire chargée datant du XIIe, où se mêlent les différentes influences de chaque siècle. L'Ardèche, c'est une sorte de gigantesque panier où on trouve de l'histoire, des produits, des beautés, des merveilles, la nature. Et j'en passe et des meilleurs.
Alors on peut
forcément. Louane a un ami.
Bah c'est ce que j'allais vous dire. Parlons d'histoire. On se demande chez quel couple d'amis Louane va nous emmener en Ardèche.
Vous avez un doute ce que j'ai dit.
Alors quel couple aujourd'hui? Shirley et Dino. Boulet Bill.
Non, pas du tout. Moi, en fait, l'Ardèche, je ne vais pas vous parler d'eau d'Ardèche, mais justement, comme il vient de dire Jean-Sébastien, l'Ardèche a un charme fou parce qu'elle est pleine des petits villages. Il y a plus ou moins une vingtaine qui sont disséminés sur tout ce territoire. Alors, pour moi, moi, j'adore parce que finalement, on peut se balader surtout l'été sans être trop envahi par les uns sur les autres. J'ai eu la chance, moi-même, de visiter dans la partie des Cévennes, Nave. Alors, Nave est un village tout petit, hein. Je sais même pas si on doit dire que c'est un village ou un
village médiéval, en tout cas.
Oui, médiéval. Alors, il est entouré d'oliviers. Les façades des maisons sont en pierre, recouvertes de lierre, les volets colorés. Très souvent, elles sont, vous savez, de ce bleu ciel caractéristique. Les ruelles, elles sont étroites. Les petites places sont toujours colorées. Il y a un incroyable, quand on se promène, parfum des thym et des genévriers. C'est incroyable. Et j'ai l'impression, vraiment, à ces moments-là, d'être dans un village d'Ombrie. Donc, l'Ombrie ressemble un peu à ça. Je suis un peu en Italie. Alors, pour le marché, parce que moi j'adore les marchés, il ne faut pas rater le samedi. C'est lui de l'Evance. C'est le plus bon marché, soi-disant par les habitants d'Ardèche, le plus beau marché d'Ardèche. On trouve des produits locaux, fruits, légumes, châtaignes, mais surtout, Jean-Michel, quelque chose que vous adorez amener dans le coffre de notre voiture.
Du fromage.
Le picodon.
Ah bah tiens.
Alors là, ils sont bien bons. Il y a aussi des saucissons, du miel. Enfin, tout donne envie à manger. Alors, en Ardèche, comme je viens de dire, on mange bien et beaucoup. Entre les marchés, les bonnes tables, les caves à vin, la gastronomie ardéchoise est vraiment une raison à elle seule de venir visiter ce département. Alors, il y a une association en plus qui s'appelle les Toqués d'Ardèche. Ce sont des restaurateurs, et ça j'adore, qui valorisent la cuisine locavore. Alors, comme les caillettes, vous savez ce que c'est?
Absolument pas, non.
Alors, ce sont des boulettes de viande de porc, du foie de porc aussi, du lard de porc. On y met des blettes, on hache des blettes. Parfois, on met des épinards, mais à la base, on met que des blettes. Des l'ail, des herbes et des aromates. Le tout est recouvert avec des crépines. On peut les manger chaudes ou froides. Après, il y a les criquards des choises. Ce sont des galettes des pommes de terre assez épaisses, agrémentées encore une fois d'ail et persil. Elles sont tellement bonnes. Elles sont cuites justement dans une poêle avec un petit peu de beurre. Elles sont moelleuses à l'intérieur, croquantes à l'extérieur. Et puis on termine par un dessert, le loup pissadou. Alors là, c'est de la crème de marron et une dacquoise aux amandes. Je vous dis pas plus parce que moi j'ai déjà faim.
Bah justement, vous parliez de pommes de terre dans ces criques ardéchoises. Dans un instant, nous allons revenir à l'un des symboles, à l'un des fleurons de l'Ardèche, Jean-Seb. c'est la patate.
Ah oui.
C'est la pomme de terre. Et on va vous expliquer, il y a plusieurs raisons à cela. Ce sera dans un instant après téléphone.
Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner. Et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer. Voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque autre rat. Voici le cœur de la vie par en toi. Et tu m'emmèneras. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Le cul c'est tellement grand que vite on oubliera. Que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous pas. Un jour
justement, et on vous emmène en Ardèche. Allez, volontiers. A tout de suite sur RTL.
Bonne journée et bel été sur RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Avec Loana Belmondo, Jean-Sébastien Petit-Demange à mes côtés. Nous sommes en Ardèche aujourd'hui dans RTL vous régale jusqu'à midi et demi. L'Ardèche est un de ses fleurons qui est la pomme de terre. Jean-Sébastien, on aurait dû, pour introduire l'histoire de la patate, vous jouez un petit air de flûte de pan presque.
Oui, si vous voulez.
On aurait pu.
Oui, on aurait
pu. Vu les origines.
Oui, effectivement, c'était pas utile non plus. Hein.
Oh, bah, ça...
Faites bien la flûte de pan. Enfin, vous faites bien la flûte. Faites moins le pan, mais...
Dans le milieu, on m'appelle Jean-Michel Zinca.
Oui.
Allons-y. La pomme de terre, originaire des Andes péruviennes.
Des Andes péruviennes et colombiennes, ainsi que du Chili. Bon, on connaît tous l'histoire de la patate. Hein. Elle traverse l'Atlantique, elle arrive en Europe vers 1570... par deux filières, l'une espagnole, l'autre anglaise. Alors c'est vrai que pendant longtemps, on s'est contenté de cultiver la plante comme curiosité pour sa beauté et on se refusait à consommer le tubercule, sauf à un endroit en France, c'était en Ardèche. Et c'était grâce à Olivier de Serres, qui était botaniste, qui était originaire de Saint-Alban-d'Aï, en Ardèche. Et la plante là-bas, dès le milieu du XVIe siècle, est cultivée pour son tubercule. Et du coup, eh bien, de manière courante, on l'a cultivée dans les fermes ardéchoises, dès le début du XVIIe, et c'est devenu un référent dans l'alimentation ardéchoise. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, on faisait déjà depuis longtemps la cuisine avec de la châtaigne. Et on faisait des purées, en plus de la farine, etc. Mais on faisait des purées de châtaigne. Et la purée de châtaigne avait la même consistance, la même texture que la purée de pommes de terre. Et du coup, ça a été très simple de passer de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que la pomme de terre a trouvé une terre d'élection assez facilement en Ardèche, ce qui a permis de sauver les Ardéchois de pas mal de famines. Et puis, ailleurs en France. Il a fallu attendre Antoine-Augustin Parmentier, pharmacien aux armées, pour que la pomme de terre entre dans l'alimentation des Français. Et encore parce que ce Parmentier, il a pu apprécier les qualités nutritives de la pomme de terre alors qu'il était en captivité en Prusse, que là-bas, pour résoudre le problème des famines endémiques, on nourrissait les gens avec des pommes de terre. Il a rapporté cela en France. Bon, il y a toute l'histoire. Et puis, c'est devenu le légume préféré des Français. Aujourd'hui, il y en a des dizaines de variétés qui sont présentes sur les étals. Chaque pomme de terre est réservée à un usage spécifique. Vous avez la pomme de terre pour la purée. Vous avez la pomme de terre pour faire des rôtis. Vous avez la pomme de terre pour faire des frites. Vous avez la pomme de terre qui se prête aux cuissons plutôt à l'eau, plutôt... En attendant, c'est un concentré d'énergie et de vitamines.
Je disais symbole de la cuisine ardéchoise, puisque la pomme de terre, Louana nous en parlait tout à l'heure, elle parlait de la crique.
Ah ben, il y a la mique. La mique, boulette de pomme de terre cuite à l'eau, mélangée avec de la tomme, de la crème et cuite au four, hein, plat d'été, plat de saison, plat de canicule. Vous avez la crique, galette de pomme de terre râpée, salée, poivrée, cuite au beurre, à la poêle. Croustillante, plat d'été, plat de saison, plat de canicule. Et puis, vous en avez plein d'autres comme cela.
Et on parle de variété de pommes de terre. Il y en a une que vous affectionnez particulièrement, ouais, parce qu'elle est suivie par une belle histoire.
Oui, c'est la violine des Borées. En fait, c'est une variété de pommes de terre très ancienne. Alors, la chair, elle est violette. Mais quand je dis violette, on dirait presque de la betterave. La chair est violette, la peau, elle est noire. Elle était en voie de disparition. Mais la petite histoire veut que, comme la poste de la commune des Borées était aussi menacée de disparaître, qu'est-ce qu'il fait le maire? Très malin. Il crée une association. La violine des Borées. Et il commence à expédier par la poste les fameuses pommes de terre à tous les grands chefs cuisiniers.
C'est génial, comme
alors, les chefs cuisiniers, ils sont très vite séduits parce que c'est une pomme de terre assez onctueuse, sa couleur est très prononcée et sa peau aussi noire, comme je vous disais. Elle conserve en plus, après la cuisson, sa couleur, son goût historique. Il est très subtil, un peu de châtaigne, un peu de noisette. Il laisse pas nos palais indifférents. En plus, elle peut être cuite à l'eau, sautée, en purée ou en chips. Donc, on peut vraiment la cuisiner de différentes façons. Et il y a même un chef étoilé, Michel Brass. Qu'est-ce qu'il en fait? Il élabore une version sucrée. Il fait une crème des violines avec du sucre, des agrumes, des épices. Et puis, je ne connais pas exactement la recette, c'est un secret. Mais à savoir que cette crème s'est mariée aussi très bien avec du fromage des chèvres frais ou aussi avec du foie gras.
C'est exactement comme votre pesto d'agrumes. Personne ne sait à l'heure où on se parle de quoi il est composé exactement.
Non, et vous le saurez peut-être jamais.
Orange, citron?
Non, il n'y a pas de citron.
Donc il y a de l'orange.
Peut-être.
Premier indice. On se retrouve dans un instant dans RTL vous régale pour vous expliquer ce qu'il faut impérativement rapporter d'un voyage en Ardèche. Ce sera après Grégory Porter. I'm trying to run, I grow weary. I'm trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar. But I look down, I'm afraid, I'm afraid. But you lift me high. I'm trying to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. I'm not afraid. Grégory Porter sur RTL.
Ne bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale.
Comme 11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Que rapporter de votre voyage en Ardèche? On va vous expliquer avec Jean-Sébastien et Louana. J'ai une question à poser d'abord à mes camarades. Qui a oublié l'arbre magique à la vanille dans la Fuego? Je pose une question. C'est terrible cette odeur. C'est insupportable, c'est insoutenable. Surtout qu'en plus, avec ce qu'on va mettre dans le coffre, je suis pas sûr que ça va bien se marier. Quoique, de la châtaigne, ça peut fonctionner.
Alors, c'est vrai qu'en préparant cette émission, dans l'évidence de la région, il y avait deux choses qui s'imposaient. La pomme de terre et la châtaigne. La châtaigne, c'est un incontournable en Ardèche. C'est pratiquement même ce que la pomme de terre est à l'Irlande. C'est dire si c'est un point. C'est une fierté absolue, incontournable des Ardéchois. Dans la tradition ardéchoise, on engrangeait pour l'année les châtaignes qu'on ramassait, on les moulinait, ça donne toujours une farine qui permet d'avoir un pain qui est solide, qui est goûteux. On prenait une poignée de châtaignes qu'on faisait griller sur un feu de genêt et ça donnait déjà ça permettait de réchauffer les mains dans les poches parce qu'on faisait chauffer les châtaignes, on les mettait dans les poches et puis les enfants les mangeaient comme ça
chaud les marrons
exactement pour aller à l'école. On continue bien sûr à en faire du pain, on fait de la soupe avec de la châtaigne, on continue à les faire griller, Dieu merci. Et puis, un jour de 1907 est arrivée la maison Sabaton. Confiserie familiale née au cœur de la châtaigneraie ardéchoise, devenue une référence dans le monde entier. Parce que chez Sabaton, on a élevé l'art du marron glacé à un degré tellement proche de la perfection que on peut... Moi, je peux aller directement à genoux.
Je sais.
À genoux, je vais en Ardèche chercher ces marrons glacés, cette friandise sublime à Aubenas qui, depuis plus d'un siècle, est une sorte de phare dans la nuit, est une sorte de référence absolue en matière de gourmandise, parce que des fêtes de Noël sans marrons glacés de chez Sabaton, c'est un peu... le Tour de France en septembre.
C'est beau. Oh, c'est beau. Cela dit, une vraie tradition de marron glacé aussi en Italie, Louana. C'est un
oui,
produit qu'on utilise beaucoup aussi.
On ne le dit pas assez, mais on a vraiment, au nord de l'Italie, on produit des marrons glacés. Et ils sont très, très bons.
On ramène de la charcuterie aussi d'Ardèche?
On ramène du picot, donc quand même.
Obligatoire. Sinon, à quoi sert l'arbre magique?
Autrement, on va perdre notre parfum naturel de notre voiture. De la charcuterie, oui, on en ramène. On ramène des saucissons au poivre, au blé, ils sont ou alors séchés, ça sent super bon. Dans la cendre, donc c'est super bon. Les gratons ardéchois, alors ils semblent à une rillette. Gratons, pourquoi? Ça provient, ce nom provient de la viande qu'on récupère en fait en grattant les os du cochon. Donc on peut le manger froide, par exemple avec des olives pour changer des cornichons et du bon pain.
N'empêche que le must.
Le must reste le jambon d'Ardèche. Et ça, c'est une Italienne qui le dit. C'est un jambon super bon. Alors tout ça, c'est grâce bien sûr à l'élevage des cochons qui sont élevés dans des conditions climatiques, dans des zones montagneuses assez particulières et favorables. Alors depuis 2010, il a une IGP. Donc il est d'abord... Alors comment il est fait ? C'est ça l'important. Il est d'abord frotté avec du sel, du poivre et des épices. Puis la face maigre, elle est enduite d'un mélange d'épices, de sandou et des farines des châtaignes. Et c'est là qu'on a tout ce goût. C'est grâce à cette étape que le jambon d'Ardèche se différencie des autres. Parce qu'il a ce goût légèrement épicé avec cette petite note des châtaignes. Et c'est quelque chose, un régal pour nos papilles. L'affinage, il n'est pas trop affiné, il a affiné 7 mois. Donc il est vraiment moelleux, il faut vraiment le couper très finement, presque en chiffonade. Et sur un pain, par exemple, sur un pain aux châtaignes.
Oui, très bien. On ne le sait pas forcément. forcément, mais on peut rapporter des pêches de la région.
Absolument. Il y a une vraie belle tradition dans la vallée de l'Eyrieux. Les premiers pêchers qui sont apparus là-bas vers 1830, on a décidé de planter une variété américaine de pêche qui s'appelle l'Amsden à Saint-Laurent-du-Pape. Ça a été un succès absolument incroyable, succès tel que dans les années 1880, entre 1880 et la Première Guerre mondiale, le succès des pêches de l'Eyrieux a carrément ralenti, mais de manière considérable, l'exode rural qu'il y avait partout ailleurs au début de l'ère industrielle. Ça fait partie, aujourd'hui on en fait encore 5000 tonnes par an de ces pêches de l'Eyrieux qui se sont formidablement acclimaté dans la région.
On a de la châtaigne, on a des charcuteries, on a de la pêche.
Oui. On a rien à boire.
On a rien à, on a encore rien à boire. On peut ramener un peu de vin ou pas? Ah bah tiens. Est-ce que c'est possible à Saint-Joseph?
Alors, et tout.
Écoutez, quand on est là-bas, vous avez quand même vous avez du cornasse. C'est un vin charpenté qui est sur un cuisseau de chevreau. C'est absolument magnifique.
Moi, je peux me damner pour le Condrieu.
Le Saint-Joseph, on est dans les gorges du Doubs, en rouge. C'est une robe, c'est léger, c'est un goût de framboise. C'est en blanc, c'est un peu plus gras. Il y a un bouquet très fleuri. C'est un vrai beau vin de famille. Vous avez du Saint-Péret qui est un peu plus sec, un peu plus minéral. Et puis alors, je suis comme vous, hein, Jean-Michel. Le Condrieu, c'est peut-être l'alpha et l'oméga de ce qu'on peut faire en vin blanc. C'est une robe d'or pâle, c'est capiteux, c'est onctueux, c'est du Viognier. C'est un vin...
C'est la vie.
Le Condrieu, c'est une œuvre d'art, vous voyez. On n'est plus seulement au niveau du vin, quoi. On est au-dessus. C'est un truc.
Je suis quand même très inquiet parce que le coffre commence à se remplir. On n'a toujours pas de fromage.
Bah si, le picodon.
C'est tout.
Mais c'est très beau, le picodon.
C'est très bien.
C'est bien le picodon.
Oui, non, c'est très
bien. Ça vous suffit?
Ça va suffire. Et quand même, dans notre grande série des pâtés croûtes.
Le championnat du monde reprend.
Il en fallait bien un. Nous avons la tourte muroise.
Que je ne connais pas.
Qui est une tourte, un pâté à base de viande, de veau et de porc, mariné dans du vin blanc, du madère et des éléments aromatiques. L'important, c'est que la viande doit absorber toute la marinade avant d'être mise dans cette tourte, dans ce pâté croûte. Ça donne quelque chose d'onctueux, de goûteux. C'est rustique. Mais Dieu que c'est bon.
Alors, parlant de rusticité, oui. Qu'est-ce que c'est que cet estomac de porc farci aux légumes?
Ah ben ça, c'est la puitrole.
La puitrole.
Là, c'est la puitrole qu'on appelle aussi la maouche.
Très bien. Oui. On en met dans le coffre ou pas? C'est nécessaire?
Alors,
la manger,
écoutez,
sur place.
Oui, il vaut mieux le manger sur place.
Oui, voilà.
Et
dans la série des trucs qui voyagent mal.
Voilà. Et puis, éventuellement, vous pouvez le ramener pour votre belle-mère.
Bon, allez, je ferme le coffre. Je pars. Le vol de nuit s'en va, destination Baïa. Ah, c'est Nicolas Perrac, c'est RTL.
Ah, le vol de nuit s'en va, destination Baïa, Buenos Aires ou Cuba. Ah, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas. Que cette fois, ah, je tire un trait, je ferme la valise. Destination Zagreb via Venise. Je souffle la bougie, je me dessine une folie. Les doigts croisés sur l'infini, je dis salut. Et peut-être qu'un jour, je serai de retour. Peut me dire comment l'exil vient aux errants. Je pars, le vol de nuit s'en va, destination Baïa, Buenos Aires ou Cuba. Je pars,
bien, je garde ta tendresse. On me tiendra chaud le temps qu'il me reste. J'ai la gueule trop pâle qui rêve de lune et d'étoiles. Cette fois-ci, je mets les voiles, je dis bon vent. Peut-être à demain. N'oubliez pas, frangin. Je change de chemin. Je change de beau temps. Oh, je pars. Le vol de nuit s'en va. Destination Bahia. Buenos Aires ou Cuba. Je pars. En soin de l'opéra.
Collection des grands classiques RTL 1977, je pars, Nicolas Perrac sur RTL.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Il est midi moins 20, vous écoutez RTL, nous sommes en direct dans RTL vous régale jusqu'à midi et demi. Je voudrais rendre hommage au courage d'une femme, en l'occurrence au courage de Loana Belmondo, qui, dans cette émission, face à Jean-Sébastien Petit-Demange, va avoir le courage de nous parler de la recette d'un gâteau de pommes de terre. Ouais. Vous parlez quand même face au connétable du gâteau de pommes de terre.
Vrai. Mais je parle tout le temps face au connétable de tout.
L'homme qui nous en a servi sur une aire d'autoroute.
Maestro, nous avons le maestro. En
sans couvert. Sans les mains. Alors ce gâteau de pommes de terre, il est d'origine italienne. On parle de pommes de terre parce que l'Ardèche, évidemment.
On parle des pommes de terre parce que c'est l'Ardèche. On parle de gâteau, et on le dit pareil en italien, di patate, pommes de terre. Pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, vous savez, c'est un plat typique napolitain. Alors il a servi au mariage de la fille de Marie-Thérèse d'Autriche et de son époux, donc Ferdinando Ier de Bourbonne, qui demeurait justement à Naples à l'époque. Et à l'époque, dans les cuisines étaient confiées à ce qu'on appelait les messieurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des chefs français qui étaient dans ces palais pour la cuisine. C'est de là qu'est né le gâteau de pommes de terre à la napolitaine, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?
C'est quoi la grosse différence avec un gâteau de pommes de terre traditionnel français ? Comme on le connaît.
D'abord, les pommes de terre, elles vont être réduites en purée. C'est-à-dire, on va les cuire. Alors, on démarre toujours la cuisson de la pomme de terre avec la peau et dans de l'eau froide. On rajoute, si vous voulez, une feuille de laurier et on va les cuire pendant une trentaine de minutes. Encore chaude, il faut l'éplucher. On va les passer à l'écrase purée. Moi, je le fais plusieurs fois. Enfin, il faut vraiment que ça soit vraiment bien écrasé.
Au moulin ou au presse-purée ?
Non, presse-purée.
Presse-purée,
moi,
d'accord.
Je préfère. On va couper de la mozzarella en dés ou alors de la scamorza pour changer si vous voulez. Mais dans la vraie recette, on met la mozzarella. On va la laisser reposer dans un tamis parce qu'il faut qu'elle dégorge complètement de son lait, de son eau. On va couper du saucisson à la base. C'est un saucisson
plutôt
typique, sec, typique de Naples. Ça s'appelle le saucisson de Naples. On le coupe en dés. Et là, je vais vous étonner, on met aussi du jambon blanc. En fait, nous aussi, on a du jambon blanc qu'il doit être, en fait, ça doit être une grosse belle tranche qu'on va, pareil, couper à un gros dé. Tout ça après, si vous n'avez pas du saucisson, si vous n'avez pas du jambon, vous pouvez aussi remplacer par de la mortadelle, par exemple. Dans un bol, alors, on va disposer donc les pommes de terre qu'on a réduites en purée. On va rajouter des œufs battus, une pincée des noix de muscade. On va saler, poivrer, rajouter un filet d'huile d'olive et un peu d'épargne maison. On va bien mélanger et à ce moment-là, on rajoute et la charcuterie et la mozzarella ou la scamorza. On va mettre dans un... Alors, il faut prendre... on peut la faire dans un plat à gratin. Moi, en général, je fais comme j'ai fait un gâteau. Je prends un moule à gâteau rond assez haut. Donc, vous mettez une feuille de papier sulfurisé. Vous huilez un tout petit peu. Vous mettez l'appareil des pommes de terre. Bien, bien. Il faut qu'elle soit un peu épais. Avec Oumalis, vous égalisez complètement tout le tour. Et là, vous mettez un mélange des chapelures et des parmesans. Et vous cuisez ça dans un four à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Quand vous commencez à voir, la pomme de terre, elle est déjà cuite. Mais quand ça commence à bien dorer, gratiner par-dessus, c'est prêt. Il faut savoir qu'il est délicieux manger froid avec une belle salade.
Mais ça fait partie de ces plats qui, froids ou réchauffés,
oui,
sont meilleurs.
Amener là en ce moment dans des pique-niques, en balade, c'est quelque chose qui...
Ou sur une aire d'autoroute.
Regardez ce qu'on a fait nous.
Exactement, je m'en souviens comme si c'était hier. L'air du Héron cendré,
voilà.
Sur la route de Brive-la-Gaillarde.
Voilà. C'est pareil.
C'est ça l'esprit d'RTL vous régale. On prend un bonheur immense, je vous assure que c'est pas du pipeau. On prend un bonheur immense à vivre cet été dans la chaleur de ce mois d'août avec vous. Et dans un instant, la suite d'RTL vous régale avec la surprise du chef Jean-Seb, c'est la bombine.
La bombine.
La bombine. Et je signale au passage que la recette de ce gâteau de pommes de terre à la napolitaine se trouve sur le site de notre partenaire...
Cuisine à Z.
Une chanson et un clip sur l'urgence climatique, la fièvre. Voici Julien Doré sur RTL.
Les peines que le féminin m'a fait. Dites à Jackie et Michel de venir me chercher. Moi je veux faire comme tout le monde. Je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est pas qu'à des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. L'enfer, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Attendant la fièvre. Le monde a changé.
tel instant, caché dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé.
La fièvre, Julien Doré sur RTL.
Bonne journée et bel été sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Nous misons là.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale, émission de tradition qui parcourt la France tout l'été, chaque jour, d'11h à midi et demi. Nous sommes au cœur de l'Ardèche aujourd'hui et évidemment, on vous parle forcément beaucoup de pommes de terre et c'est pas fini. Vous allez voir parce qu'il y a une des recettes les plus traditionnelles de l'Ardèche ancestrale qui s'appelle la bombine.
C'est moins connu que la crique.
Mais c'est tellement.
Mais c'est plus connu que la mique.
Alors, la bombine ardéchoise, c'était une façon économique autrefois d'accommoder les pommes de terre. On a souvent appelé la bombine le plat du pauvre parce qu'elle trônait régulièrement sur les tables de nombreux ardéchois. C'est facile à préparer, ça doit être mijoté. Les pommes de terre doivent être fondantes sans être écrasées. C'est ultra traditionnel. On va avoir le spécialiste de la bombine, mais il va nous donner une recette, parce que je crois qu'il y a autant de villages et de familles pratiquement ardéchoises qu'il y a de recettes de bombines. Et c'est une on peut y mettre de la viande de porc, d'agneau, pour les uns, pour les autres, de la tomate, pas de tomate. En attendant, moi j'en ai mangé deux ou trois, c'est fin délicieux. C'est vrai que je suis un peu fan de pommes de terre.
Il est précédé
mais
par
que c'est bon.
Il est précédé par sa réputation de spécialiste, ce qui colle inévitablement une certaine pression sur les épaules. Philippe Vincent, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue bonjour. Sur RTL. Vous êtes le propriétaire de La Bombine, une ferme auberge à Montselgue.
Voilà.
On est en Ardèche,
voilà.
Évidemment, près d'Aubenas. Alors,
oui,
je dis, on le disait avec Jean-Sébastien, vous êtes le spécialiste de la bombine. Attention, les Albénaciens vous écoutent. et je me trompe. Je me trompe si je dis qu'il y a une recette par famille, c'est pas faux. Hein.
Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et écoutez, nous avons notre spécialité, nous la faisons à notre façon. Donc on y met, on la fait à l'agneau avec des cèpes, voilà. Donc chacun a sa façon de la faire. Mais nous, je pense qu'on est dans le vrai, quoi. Hein, puisque avant c'était ça se faisait avec du cochon, ça se faisait avec ce qu'on avait à l'époque.
Mm-hmm.
Donc maintenant, on l'a fait uniquement pour des groupes un peu importants, puisqu'on ne peut pas faire une bombine pour trois personnes, vous comprenez?
Oui,
c'est un plat qui est mijoté au four, voilà.
Elle cuit combien de temps, plus ou moins? 3 heures?
Une bombine, ça cuit entre 3 et 4 heures. Ça mijote entre 3 et 4 heures.
Ça me plaît, ça.
À feu
de
l'eau.
Alors, de l'agneau, des cèpes, des lardons, des olives noires, du laurier, est-ce que vous nous dévoileriez un ou deux ingrédients supplémentaires?
Je vous dirais aussi qu'il faut y mettre à faire à l'huile d'olive. Hein. C'est pas mal aussi.
C'est
hein.
Un indice.
Voilà.
C'est un indice.
Ou alors au sein d'oux, un petit peu au sein d'oux, parce qu'on a aussi des couches du cochon. Alors, c'est pas mal aussi.
Bon, on a compris que c'était plutôt un plat d'hiver.
Voilà. Ah, mais ça, c'est un plat d'hiver. Voilà. C'est pas en ce moment, nous.
On va pas s'envoyer une bombine en ce moment. On est d'accord.
Non.
Qu'est-ce qu'il faut comme pommes de terre? Les pommes de terre idéales pour faire une bombine?
Les
pommes de terre idéales.
On est producteur de pommes de terre, puisqu'on fait de la mandaline. C'est une pomme de terre qui tient bien, qui supporte la cuisson.
Voilà.
Après, je pense pas qu'il y ait de variété vraiment spéciale. Quoi.
En tout cas, votre histoire est jolie. Ça fait partie de ces histoires qu'on aime, qui reflètent bien le patrimoine français, de ce que Jean-Sébastien appelle l'archipel français. Parce que votre auberge, elle s'appelle La Bombine. Ça fait 300 ans qu'elle s'appelle comme ça. Et l'histoire raconte que c'est l'été sur la route des bergers, votre auberge.
Voilà. On a une auberge, donc l'auberge et la ferme et sur la longe, mais sur la voie romaine qu'on appelle maintenant la voie romaine, et qui était en fait le chemin des muletiers à l'époque, le chemin des muletiers, le chemin des transhumants. Mmh. Qui venait du Gard, de l'Hérault, et qui montait sur le sur les plateaux ardéchois pour passer l'été. Donc l'histoire dit que la ferme s'appelle ferme de la Bombine parce que à l'époque tous les bergers et les muletiers donc s'arrêtaient là et mangeaient la Bombine. C'était une tradition de manger la Bombine. Donc ça c'est là.
Hey, en plus, c'est la légende, Philippe, quoi. Cuite à l'époque dans un four à bois. Four qui existe toujours aujourd'hui.
Ah oui, oui, bien sûr, oui, il est toujours en état et il fonctionne toujours et on s'en sert encore régulièrement. Bon, un four qui est immense, on faisait la Bombine, on faisait le pain, on faisait tout à l'époque dans ce four. C'était le cœur de la maison.
Philippe, voilà. On peut venir à partir de quel moment avec le bus RTL pour manger une Bombine?
Ben surtout voilà, en ce moment, vu les températures. Bienvenue. Voilà, c'est vous le plat de circonstance.
Attendez que la température baisse un peu.
On va faire ça. Philippe Vincent, propriétaire de la Bombine, cette ferme auberge à Montselgue, en Ardèche, on est près d'Aubenas. On dit pas le S, hein, on dit Aubenas ou Aubenas finalement, Philippe?
Aubenas,
on est d'accord, très bien. Voilà. C'est marrant parce que vous parliez, et il y a un dénominateur commun avec notre émission, on parlait de voie romaine. Nous aussi, on en a une. Notre voie romaine à nous, c'est celle de Louana Belmondo.
Grazie, Philippe.
L'hommage de la journée. Un petit hommage par jour.
Grazie, Philippe.
C'est formidable.
Ça tient en forme. On vous embrasse, Philippe Vincent. Merci,
merci
pour cette passion
transmise.
RTL vous régale. Il est 11h57 et jusqu'à midi, voici les belles stars.
Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Bon, vous l'aurez compris, hein, les belles stars, ce sera pour un autre jour. On est un peu pris par le temps, comme d'habitude, avant les infos de midi. Parce qu'en plus, Nathalie est à Levallois-Perret et elle arrive sur l'antenne d'RTL tout de suite. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans RTL, bonjour, vous régale. Alors, merci. Nathalie, c'est le défi frigo que vous nous proposez aujourd'hui. Un défi frigo qui va permettre à Louana et à Jean-Sébastien de s'illustrer dans quelques instants. Je rappelle que Jean-Seb a gagné hier. Contre toute attente, avec une recette de fraises et de champignons de Paris, qu'allez-vous mettre à leur disposition aujourd'hui, mardi, pour deux recettes?
Alors aujourd'hui, j'ai des poivrons dans mon réfrigérateur.
C'est
des
bon,
poivrons rouges et jaunes.
Ah, il y a deux variétés.
Ah, ben c'est bien, c'est joli.
Poivron rouge.
Du soleil dans l'assiette.
Poivron jaune. D'accord. À cuisiner en deux recettes originales. Vous allez repartir avec une montre RTL et les éditions Hachette vont vous offrir un guide du routard de votre choix. On attend ces deux recettes dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Attention, Jean-Seb 1, Louana 0. Louana, je compte sur vous.
Nathalie, je compte sur vous.
Il n'y a pas de poivron dans votre.
Je compte sur vous, Louana.
Il n'y a pas de poivron dans votre pesto d'agrumes?
Non, mais je vais vous aider. Je peux vous faire aussi une pasta au poivron ce soir.
Ah, je suis en panique, moi.
On en parle dans quelques instants. Pour l'heure, vous écoutez RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
C'est le défi frigo d'RTL qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, parce que j'ai un petit peu l'impression que nous sommes dans le frigo. Pour tout vous dire, on a changé de studio. La clim mais ne fonctionnant mieux. Plus dans le studio précédent. Alors là, on est à moins de. J'ai l'impression d'être dans la grotte chauve.
Ouais, hier, on était à plus 40.
J'imagine, hein. On est bien là.
Ah, on est bien. Vous allez vous transformer en stalagmite dans un instant. Mais tout va bien, tout est sous contrôle. Remarquez que j'ai dit stalagmite et pas stalactite. Quel bel hommage. Elle s'appelle Nathalie. Elle est à Levallois-Perret. Elle a des poivrons rouges, mais pas que. Elle a aussi des poivrons jaunes dans le frigo. Et c'est l'objet du défi d'aujourd'hui. Nathalie, vous auriez fait quoi avec ces poivrons, a priori?
Alors, en principe, je les ai fait confire dans l'huile d'olive.
Ça, ouais.
Mais là, il fait un peu chaud, en fait. Du coup, je ne sais plus trop bien quoi en faire.
Moi, j'adore ça. J'adore faire confire les poivrons, comme vous le faites, dans l'huile d'olive. Une petite gousse d'ail en chemise.
Absolument.
Et alors, vous savez quoi? Je ne sais pas si vous faites ça, mais un petit peu de balsamique, de sirop de balsamique par la suite sur le poivron. Pas du sirop.
Attention.
Hein. Non, pas, j'ai pas dit sirop. Non, mais
un bon balsamique,
un peu sirupeux.
Voilà.
C'est ça que je voulais dire.
Où on peut réduire le balsamique.
Attention, n'achetez pas de sirop de balsamique.
Caramel,
mais vous voulez jouer maintenant?
Pardon?
Vous voulez jouer maintenant, c'est
ça? Non, je suis hors compétition.
D'accord.
J'ai pas envie de vous pourrir votre été.
Non, mais...
Ils ont eu 4 minutes, autant vous le dire, pour imaginer deux recettes extrêmement originales à base de poivrons rouges et jaunes. On commence avec qui, Nathalie ?
On commence avec Louana.
C'est
alors,
parti.
Ce que, j'ai cru comprendre que vous vous avez pas envie de les griller, c'est ça, vos poivrons ?
En fait, j'ai pas envie de les manger chauds.
Ah,
j'ai les
d'accord.
Griller, mais j'ai pas envie de les manger chauds.
D'accord. Alors, si je vous propose une terrine de poivrons et de brousse, je trouve que c'est quelque chose de froid, parce que ça se mange très froid.
Vous aimez la brousse ?
Oui. J'aime tout, moi. C'est un peu mon problème.
on a le même défaut.
Alors, c'est un bon défaut.
Est-ce qu'on peut rajouter, ça vous dérange, si je rajoute des courgettes ou ça vous va ?
Non.
Ok. Alors, on va commencer à nettoyer, ouais, bien sûr, les légumes. On va couper en fines lamelles les courgettes dans le sens de la longueur. On les fait juste blanchir. Mais quand je dis blanchir, c'est 3 secondes dans de l'eau bouillante. On les sort, on les éponge, on les selle et on les huile un tout petit peu. Les poivrons. Alors, vous pouvez faire des deux façons. Soit vous les faites cuire au four, vous savez, pour enlever la peau. La peau, il faut l'enlever parce qu'elle indigeste, parce qu'elle dérange. Donc, soit vous le faites à l'économe accru. Donc, si vous faites ça, vous les faites blanchir de la même façon que les courgettes. Et donc, vous faites le même processus. Vous enlevez la peau à l'économe, vous les faites blanchir un peu plus, là, on va dire une minute, parce qu'ils sont un peu plus costauds. Vous épongez salé, huile d'olive. Soit, la méthode traditionnelle, on les fait griller, puis on les met dans un sac en plastique, et puis on enlève la peau. C'est à vous de décider laquelle des deux ça vous fait plus plaisir. Enfin,
d'accord.
Bref, donc on a d'un côté les courgettes, de l'autre côté on a nos poivrons. Les poivrons, en fait, vous les ouvrez en deux. Il faut vraiment, il faut pas faire des lamelles et tout ça, il faut les couper en deux pour avoir vraiment, il faut qu'on les aille ouverts. À ces moments-là, on prend un saladier. À l'intérieur, on y met de la brousse. Moi, comme j'arrive pas, il faut qu'on fasse une crème, donc je la délaye un peu avec du fromage blanc. Ça m'aide vraiment à bien la travailler au fouet. J'y rajoute des olives hachées. Un petit peu de basilic frais, bien sûr, et un petit peu d'huile d'olive. J'ai sel, j'ai poivre, et là, j'ai comme une crème. Maintenant, c'est très simple. Je prends une terrine. Dans une terrine, j'ai mis du film. Je vais mettre du film transparent.
Et vous mettez les courgettes dans le fond ?
Au fond, je commence par une couche des courgettes que j'ai bien égouttées. J'y rajoute donc ma crème de brousse, des poivrons rouges, encore de la brousse. Je recommence. Entre-temps, vous pouvez rajouter aussi des feuilles de basilic entier. Je recommence. La brousse, on a déjà dit qu'il y avait aussi des olives dedans. Je recommence avec du poivron jaune. J'éterne et je termine le tout. Donc, vous faites à peu près 4-5 couches et on termine avec les courgettes. Maintenant, je ferme bien. Vous savez, les bords du papier film. Moi, normalement, je mets un poids parce que, vous savez, j'utilise pas de gélatine. J'aime pas tellement l'utiliser. Donc, il faut vraiment que tout soit bien pressé. Et pour ça, je mets des poids. Alors, des poids qu'on a en cuisine, vous pouvez mettre une bouteille d'eau, tout simplement. Et je réserve au frigo au moins pendant 4 heures. On va démouler et vous verrez, ça ferait vraiment une très belle terrine très jolie. On va démouler au moment de servir. Vous coupez des tranches. C'est joli, vous allez voir.
Si c'est bien fait, il y a des espèces de strates.
Ouais, c'est coloré. Mmh. Et vous saupoudrez des basiliques frais, des tomates à l'huile d'olive. Ou alors, vous pouvez faire une sauce vierge avec un peu des tomates concassées, des anchois, un peu de jus de citron, encore du basilic. Et vous mettez par-dessus. C'est très frais, il fait chaud. Et cette terrine, surtout, vous pouvez la garder toute la semaine.
Oui, bah, très bien, recette d'été en tout cas. C'est plutôt frais, c'est une bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nathalie. Mais c'est pas mal.
Je trouve ça super. Bon. Pour l'instant, c'est génial.
Alors, terrine, brousse, poivron. Face à elle, il y a cet homme qui vient de pratiquer 4 à 5 exercices de crossfit pour se mettre en jambes dans le studio. Il est prêt et il propose.
Il fait chaud, on est d'accord. Il fait une chaleur étouffante. On pourrait se croire pratiquement dans le sud du Maroc. On pourrait se penser dans une commune étouffée de chaleur du Maghreb. C'est pour cela que je vais vous proposer une chakchouka, parce que ça, c'est un bonheur absolu.
Vous connaissez la chakchouka, Nathalie ?
Oui, je connais. J'en ai jamais fait, mais je connais.
Alors, c'est pas mal. Vous allez voir, c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin de faire des couches, des terrines, des machins. D'une facilité enfantine. Il vous faut en tout et pour tout 15 minutes pour faire ce plat. Vous allez faire, alors, je reviens pas sur le côté griller les poivrons au four. Il faut absolument enlever la peau. Il y a un truc tout simple, c'est que vous les mettez au four à griller et puis vous les mettez à refroidir dans un sac.
Bah, pareil, on vient de l'expliquer.
On vient de le dire.
Voilà. Hop, vous enlevez tout ça. Vous plongez vos tomates dans de l'eau bouillante après avoir fait une petite croix avec un couteau pointu pendant 30 secondes dans de l'eau bouillante. Pareil, vous épluchez vos tomates, vous les mondez, vous enlevez les graines. Et éventuellement, vous pouvez récupérer l'eau des tomates parce que comme ça, vous allez pouvoir vous faire des tartines. Vous allez pouvoir comme imbiber du pain avec l'eau de tomate quand il fait chaud.
Et quelques gouttes d'huile d'olive, c'est très bon.
C'est un vrai plaisir aussi. Vous mettez tout ça en dés, poivrons et tomates. Une gousse d'ail écrasée, un oignon émincé dans une sauteuse avec de l'huile d'olive. Vous faites juste revenir l'ail et l'oignon. Vous mettez vos tomates, vos poivrons, du paprika, du rasel hanout, et puis vous faites une cuisson très douce jusqu'à ce que vos poivrons soient fondants. À partir de là, vous retirez votre sauteuse du feu et vous cassez des œufs à l'intérieur et vous laissez prendre les œufs avec la chaleur résiduelle de vos légumes.
Ils vont pocher dans les légumes.
Voilà, ils vont pocher dans les légumes. Vous pouvez soit les laisser comme ça pocher tranquillement, soit battre un peu les œufs. Vous mettez ça dans un plat, du persil, un peu de coriandre, comme vous voulez.
Et si vous voulez y jeter quelques petits tronçons de merguez grillés, c'est pas mal aussi.
Il n'y a même pas... Alors,
oh, ça se fait.
Mon petit
ça
truc
fait,
à moi.
En fait, c'est un piperade marocaine, quoi.
C'est un peu ça, oui.
Voilà.
Je peux finir ou c'est...
Ah, pardon. Je pensais que c'était fini.
Non, justement. Justement, vous évitez les merguez. Ce que vous faites, c'est que vous prenez du citron, vous zestez un peu de citron et vous coupez ça en toutes petites lamelles et vous posez juste du citron comme ça sur votre chakchouka, ça va vous donner un petit coup de peps dans tout ça. Vous mettez au frigo. Vous avez une entrée pour une soirée chaude. Et puis vous vous souvenez, vous avez du pain avec de l'eau de tomate. Ben vous prenez votre chakchouka et vous posez ça sur votre pain tomaté. Et je peux vous dire que vous allez passer un apéritif.
Comment ils lui vendent ce service après-vente. Le SAV petit demange. C'est la grande spécialité du Diffus Figaro, le SAV. Nathalie, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On a une chakchouka chez Jean-Seb. On a cette terrine de Louana. Je rappelle que c'est 1-0 pour Jean-Sébastien et que vous avez, vous... la possibilité soit de lui permettre de prendre le large, soit de rétablir l'égalité.
Le large.
Alors, je crois que je vais de toute façon être obligée de faire les deux à un moment ou un autre.
Ah, de les cuisiner, ça, c'est sûr.
Il faut bien goûter les deux. Là, aujourd'hui, tout de suite, je pense que c'est la terrine de Louana.
Ah, merci. Ben, vous avez fait un bon choix parce que...
Ouais.
Enfin, franchement, Jean-Sébastien, la terrine, elle est très originale. Voilà.
Oui.
C'est complètement de saison.
Je vous disais, Jean-Sébastien, quelle mauvaise foi.
Ça prend 20 minutes au
frigo.
4 heures
au frigo.
C'est absolument. Vous avez fait le bon choix. Franchement, d'ailleurs, que ce soit moi ou pas.
Nathalie.
Bravo, Nathalie.
Victoire de Louana Belmondo qui égalise aujourd'hui dans le défi frigo. C'est un point partout. Vous auriez dû mettre des merguez dans votre chakchouka, je vous le dis. Voilà. C'est ce qui s'appelle se faire raser la noutre. Nathalie, vous allez repartir avec une montre RTL et les éditions Hachette vont vous offrir un guide du retard de votre choix. Passez un très bel été à l'écoute d'RTL. Merci d'être avec nous en tout cas.
Je peux vous dire juste un petit
bien
mot.
Sûr, bien sûr.
Je voulais dire à Louana que son sourire, son rire et sa voix, je ne peux pas comprendre que les gens n'aiment pas manger et n'aiment pas cuisiner.
Merci.
Voilà, j'ai un petit
bonheur. Ouais, ben c'est pas eux qui prennent les kilos à notre place. Hein.
Non, mais moi je les prends aussi. Hein. C'est pas grave.
C'est que du bonheur. Pas grave.
On vous embrasse fort. Bel été à vous. À bientôt, Nathalie. Et je vous rappelle que pour lancer un défi frigo à Louana et Jean-Sébastien, c'est facile. 3210 par téléphone ou 64 900 par SMS avec le mot Régal, suivi de votre ingrédient. On se retrouve dans un instant pour la suite d'RTL Vous Régale, l'ambassadeur du jour. Elle s'appelle Marie-Pierre Curigné. Elle est la présidente de la Société des eaux minérales de Vals. On va filer à Vals-les-Bains dans un instant. À tout de suite.
Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL Vous Régale.
RTL Vous Régale avec Jean-Michel Zeka.
Nous sommes en Ardèche aujourd'hui pour quelques minutes encore jusqu'à midi et demi avec mes complices. Voici l'ambassadeur, je devrais dire l'ambassadrice du jour. Elle s'appelle Marie-Pierre Curigné. Bonjour Marie-Pierre.
Oui, bonjour.
Bienvenue
bonjour.
Sur RTL.
Bonjour à tous.
PDG de la Société des eaux minérales de Vals. On est à Vals-les-Bains. Chez vous, cette eau minérale gazeuse qui existe depuis, dites-nous, 1602. C'est une eau historique en France.
C'est une eau historique, oui, qui a été découverte fortuitement le long des berges de la Volane. Ouais. Et qui, très vite, a connu beaucoup de succès à la cour du roi Louis XIV.
Alors justement, elle doit ce succès à quoi ?
Elle doit ce succès d'abord à ses vertus digestives. Mmh. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, les eaux minérales étaient plutôt des eaux pharmaceutiques, si vous voulez. Ouais. Ça apportait du bien-être à ceux qui les goûtaient, et notamment c'est la marquise de Sévigné qui consacra le faste des eaux de Vals à la cour de Louis XIV, puisqu'elle venait prendre les eaux à Vals-les-Bains.
Alors c'est une eau qui est en fait un mélange de plusieurs sources en fait.
C'est un mélange de plusieurs sources, de cinq sources qui sont toutes captées à Vals-les-Bains.
D'accord. Elle a quel goût cette eau ?
Alors c'est une eau qui est bicarbonatée. Donc, ça lui donne, confère ce petit goût salé. Hein, ce n'est pas du chlorure de sodium, c'est du bicarbonate.
Et c'est une eau qui naît au cœur aujourd'hui d'un parc naturel régional, celui des Monts d'Ardèche. En matière de préservation et de la nappe phréatique, des sources et de l'environnement, c'est important.
Ça, c'était très important. Donc, c'est une eau qui s'est infiltrée au travers des failles volcaniques.
Oui.
Et qui ressort au travers de failles également. Donc on n'a pas ce même principe de nappe phréatique. Hein. Ce sont des eaux qui se chargent au travers des roches, des sels minéraux.
D'accord.
Et on est protégé de fait par le relief, puisque nous ne sommes pas sur des terrains qui connaissent de l'agriculture intensive, hein, comme en Ardèche, où les terrains sont plutôt accidentés.
Vals-les-Bains aussi, on l'a juste évoqué, c'est une eau qui est naturellement gazeuse. Hein. On ne rajoute pas de gaz.
Non, on ne rajoute pas de gaz pour l'eau minérale. On capte du gaz sur différentes sources et on réinjecte du gaz qui est présent naturellement dans l'eau.
Mmh. Et pour terminer, il y a un vrai débat légitime d'ailleurs aujourd'hui en France et partout ailleurs sur les contenants de ces nombreuses bouteilles d'eau qu'on utilise et surtout par ces fortes chaleurs. Vous avez une vraie réflexion là-dessus ? Vous avez pris des décisions qui sont importantes ?
Alors on a deux types de contenants. Effectivement, on s'adresse aux consommateurs au travers de bouteilles en plastique. En PET qui sont vendus dans la grande distribution, mais aussi des bouteilles en verre qu'on utilise, qu'on trouve sur les grandes tables en restauration. Alors la réflexion, effectivement, le PET est un matériau qui se recycle, donc on utilise et on utilisera de plus en plus de PET recyclé dans nos bouteilles. Et on demande aux gens effectivement d'être citoyens et de bien trier leurs bouteilles, parce qu'on a besoin de ces bouteilles pour refaire des bouteilles, justement, ce qu'on appelle le cercle vertueux du PET.
Voilà, et c'est important de dire que l'utilisation du verre, justement, à recycler, permet de réduire les dépenses d'eau, contrairement justement à la consigne qui suppose le lavage des bouteilles vides.
Tout à fait. Donc nos bouteilles sont en verre recyclable. Donc elles ne reviennent pas chez nous. On n'utilise pas justement d'eau avec des détergents.
Exactement.
Pour pouvoir laver les bouteilles. Ça c'est très important.
Cercle vertueux sur les bouteilles en PET, cercle vertueux également sur les bouteilles en verre. C'est des réflexions qui sont extrêmement importantes.
Bien sûr.
En ce moment, qu'on n'imagine pas forcément, parce que c'est vrai que le débat aujourd'hui c'est un peu genre il faut absolument se débarrasser du plastique. C'est moins simple.
C'est plus nuancé que ça.
On est d'accord. Marie-Pierre Curigné, PDG de la Société des eaux minérales de Vals. Merci mille fois d'être passé chez nous.
Merci beaucoup à vous.
À très bientôt. On va partir ailleurs dans un instant avec Jean Seb. On va où ?
En Irlande.
Pour terminer, RTL vous régale. C'est dans un instant, direction l'Irlande.
11h, 12h30. RTL vous régale.
Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands, n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire, qu'on meure de leurs conneries. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les je fais attention. Et tu devrais faire pareil mon garçon. Dans quelques temps ce sera déjà trop tard. On ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons. Avant de vous écrire cette chanson. La vérité sort de la bouche des enfants. Donnez nos droits de devenir grands. Et ça danse, danse.
Impact écologique, un instant dans RTL vous régale. Voilà, la jeune génération monte au créneau et elle a bien raison. Les enfants du monde, un collectif d'artistes réunis autour des Kids United sur le thème de la nature et de la planète. C'était Green Team sur RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale.
RTL vous régale en Ardèche aujourd'hui depuis 11h ce matin. Et pour terminer cette émission, Jean-Sébastien, c'est la pomme de terre ardéchoise qui vous a donné des envies d'ailleurs, des envies d'Irlande.
Bah forcément, parce que la pomme de terre en Irlande, ça fait partie des essentiels. Imaginez en 1845, un champignon parasite se propage dans les cultures de pommes de terre irlandaises. Mildiou anéantit ce qui était la nourriture essentielle des Irlandais. C'est une catastrophe naturelle sans précédent, qui affame la population, qui provoque du coup une épidémie de choléra qui va faire 1 million de morts en 5 ans, uniquement en Irlande. Du coup, les sympathiques voisins britanniques, toujours prompts à faire des belles choses, en profitèrent pour expulser les paysans incapables de payer l'impôt sur leurs terres. Et de là, l'immigration vers les États-Unis, vers le Canada, vida un peu plus la terre irlandaise. Et quitter cette terre sublime, imaginez, a dû être un véritable déchirement. Parce que il suffit d'aller dans le Connemara ou encore dans le Bowen. Le Bowen avec des mousses et des arbrisseaux qui parviennent tant bien que mal comme ça à s'agripper à la roche nue. C'est le centre de l'île qui est occupé par une grande plaine couverte de lacs, entourée de massifs montagneux avec des paysages qui ressemblent, où que l'on soit, à des gravures romantiques du 19e siècle. Et puis, cette Irlande est restée tellement humaine. Les souffrances passées lui ont conféré ce surplus d'altérité et de générosité. Tout un chacun peut découvrir cela dès la porte du premier pub franchi, parce que vous ne serez jamais seul plus de 5 minutes. Les pubs, c'est des incontournables. En Irlande, les bières, elles accompagnent les fish and chips. Les Irlandais ont amélioré la recette des Anglais, mais comme les Anglais avaient déjà piqué la recette de la pâte à frire aux immigrés juifs venus du Portugal au XVIIe, tout va bien. C'est un peu comme la pomme de terre. Elle vient des Andes, mais tout le monde l'a améliorée. Et de toute manière, depuis qu'on sait que la frite est française, tout va bien.
Ah, 11h-12h30.
RTL vous régale.
Très bonne journée à l'écoute d'RTL. Dans un instant l'info, et nous nous reviendrons avec Louana et Jean-Sébastien dès demain, 11h. Demain, direction le Pays Basque. Demain, nouveau défi frigo. Je rappelle que c'est un point partout. Ça vaudra la peine d'être là demain. On vous embrasse. Passez une très belle journée sous le soleil. Vous écoutez.